Je reviens à ce qui nous arriva dans la tournelle. J'ai dit plus haut que nous ne restâmes que 3 jours et 3 nuits enchaînés sur les poutres. Voici comment nous en fûmes délivrés sitôt. Un beau protestant de Paris, nommé Monsieur Girardot de Chancourt, riche négociant, ayant appris notre arrivée à la tournelle, fut prié le gouverneur de ce château de lui permettre de nous voir et de nous assister dans nos besoins. Le gouverneur, tout son ami qu'il était, ne voulut jamais lui permettre d'entrer dans le cachot pour nous parler, car on n'y laisse jamais entrer que des ecclésiastiques. Monsieur Girardot, donc, ne put obtenir de nous voir de plus près que de la cour de ce château, au travers d'un double grillage de fer dont les croisées du château étaient garnies. Il ne put même nous parler, la distance qu'il y avait de lui à nous étant trop grande, et ce n'était qu'avec peine qu'il pouvait entrevoir quelqu'un de nous, qu'il ne distinguait que par notre casaque rouge. Mais nous voyant dans l'attitude affreuse où nous étions, la tête clouée sur ses poutres, il demanda au gouverneur s'il n'y aurait pas moyen de nous enchaîner par la jambe comme quelques-uns des autres galériens qu'il voyait être près des grillages des croisées en dedans du cachot. Le gouverneur lui dit que ceux qu'il voyait ainsi payaient pour cela par mois un certain prix fait. « Si vous vouliez, monsieur, lui dit monsieur Girardot, mettre ces pauvres gens dans cette liberté et faire le prix avec eux, je vous le paierai d'abord à leur défaut. » Le gouverneur lui dit qu'il verrait s'il y avait place au grillage et qu'en ce cas il le ferait. Sur quoi, monsieur Girardot se retira. Le lendemain au matin, le gouverneur entra dans le cachot et demanda au premier de nous qui s'offrit à sa vue qui était celui qui était chargé de la dépense. On me montra. Le gouverneur vint à moi et me demanda si nous serions bien aises d'être à la grille, la chaîne aux pieds. Je lui dis que nous ne demandions pas mieux. Et enfin, nous convînmes de lui payer 50 écus pour le temps que la chaîne resterait à la tournelle. Je payai sur le champ cette somme de la bourse commune dont j'étais le trésorier. Aussitôt, le gouverneur nous fit décramponner de ses affreuses poutres et nous fit mettre le plus proche possible de la grille qu'il put la chaîne aux pieds. Depuis plusieurs années, nous étions accoutumés à ces deux dernières espèces d'enchaînures. C'est pourquoi nous nous trouvâmes fort soulagés. Notre chaîne, qui était attachée au plancher et qui nous tenait à un pied, était de la longueur de 2 aunes, de sorte que nous pouvions être droits sur nos pieds, assis ou couchés tout notre long. Et vu l'état où nous avions été sur les poutres, nous nous trouvions dans une très heureuse situation. Monsieur Girardot nous vint visiter et nous parla avec beaucoup de facilité au travers du grillage, mais avec prudence et circonspection, à cause des autres galériens qui nous environnaient. Nous ne jouîmes de ce repos qu'un mois, au bout duquel nous partîmes avec la chaîne le 17 décembre. Le lecteur ne sera pas fâché de lire la description de ce départ que je vais lui donner. Les jésuites ont la direction du spirituel du château de la Tournelle. 8 jours avant le départ de la chaîne, un de leurs novices, qui nous parut un grand ignorant dans ses prédications, y vint prêcher tous les jours pour préparer ces misérables galériens à se confesser et à recevoir le Saint-Sacrement. Ce prédicateur prenait toujours les mêmes textes. C'était ce précepte de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et travaillés, et je vous soulagerai. » Il soutenait et s'efforçait à prouver par divers passages des Pères que le Sauveur, par les paroles de ce texte, enseignait qu'on ne pouvait venir à lui que par la confession auriculaire. Nous entendions ses sermons et nous étions outrés de ses absurdités. Mais nous n'eûmes jamais l'occasion de lui pouvoir parler, car il craignait notre conversation comme le feu, croyant que nous étions tous des ministres huguenots très dangereux, et très propre à surprendre les bons catholiques, comme le bruit s'en était répandu dans Paris. De sorte que ce pauvre novice, soit en entrant, soit en sortant du cachot, prenait toujours un grand détour pour nous éviter. Cependant, plusieurs pères jésuites confessèrent tous ces malheureux, et leur apportèrent le Saint-Sacrement qui leur firent prendre dans cette effroyable attitude, la tête clouée sur la poutre, action qui paraissait si indécente, même à nous qui n'avions pas la foi pour ce mystère, que nous en avions horreur. Je remarquai qu'après leur avoir donné l'hostie, on leur faisait boire un peu de vin dans un calice. Je demandai à l'un d'eux s'il recevait la communion sous les deux espèces. Il me répondit que non, et que le vin qu'on leur donnait dans ce calice n'était pas consacré, que ce n'était qu'une précaution qu'on prenait à la tournelle pour leur faire avaler l'hostie. Et cela, depuis qu'un malheureux galérien au lieu de l'avaler l'avait gardé, ayant fait un pacte avec le diable par lequel il s'obligeait de lui fournir une hostie, à condition que sur la route, il mettrait tous les galériens en liberté. Ce que le diable n'avait pas manqué de faire une belle nuit. Car, ayant rompu les fers de toute la chaîne, tous les forçats, au grand étonnement des gardes, s'étaient sauvés. J'aurais pu embarrasser celui qui venait de me faire ce récit en lui demandant quel usage pouvait faire le diable de cette hostie, puisque selon leur communion, elle renfermait réellement le corps et le sang du Christ, le sauveur du monde, qui était venu établir sur la terre le règne de Dieu et précipiter Satan jusqu'au fond de l'abîme. Mais j'aimais mieux me taire et ne me pas attirer quelques mauvaises affaires de la part des jésuites qui s'efforcent de faire accroire cette fable, tout absurde qu'elle soit, et ne la croient pas eux-mêmes. Je crois avoir dit plus haut que le départ de la chaîne fut fixé au 17 décembre. En effet, ce jour-là, à 9h du matin, on nous fit tous sortir du cachot et entrer dans une spacieuse cour devant le château. On nous enchaîna par le cou, deux à deux, avec une grosse chaîne de la longueur de 3 pieds, au milieu de laquelle il y avait un anneau rond. Après nous avoir ainsi enchaînés, on nous fit tous mettre à la file, couple devant couple. Et alors on passa une longue et grosse chaîne dans tous ces anneaux, si bien que nous nous trouvâmes tous enchaînés ensemble. Notre chaîne faisait une très longue file, car nous étions environ 400. Ensuite, on nous fit tous asseoir par terre en attendant que le procureur général du Parlement vint pour nous expédier et nous mettre entre les mains du capitaine de la chaîne. C'était pour lors un nommé Langlade, exempt du guet ou de M. d'Argenson, lieutenant de police de Paris. Sur le midi, le procureur général et 3 conseillers du Parlement vinrent à la tournelle, nous appelèrent tous par nos noms, nous leur à chacun le précis de notre arrêt de condamnation et les remirent tous en main au capitaine de la chaîne. Cette formalité nous arrêta 3 bonnes heures dans la cour pendant lesquelles M. Gérardeau, qui ne s'endormait pas à notre égard, fut supplié M. d'Argenson de nous recommander au capitaine de la chaîne, ce qu'il fit fortement, ordonnant au dit capitaine de nous distinguer des autres, de nous procurer tous les soulagements qui dépendraient de lui, et de lui rapporter, après son retour de Marseille, un certificat par lequel nous attesterions que nous étions contents de lui. Il lui ordonna de plus de régler avec M. Gérardeau ce qui concernait notre soulagement durant la route. Pour cet effet, M. Gérardeau vint dans la cour de la Tournelle, alla saluer le procureur général et le pria d'avoir la bonté de permettre qu'il entretint et assista ses 22 réformés qui étaient à la chaîne. Ce que le procureur général lui eut accordé avec beaucoup de douceur, il vint nous embrasser tous avec une affection digne des sentiments de christianisme qui le faisaient agir. Ensuite, il s'entretint avec le capitaine qui lui dit qu'il était nécessaire de lui remettre l'argent que nous pourrions avoir parce qu'au premier logement où la chaîne s'arrêtait, on l'a fouillé et qu'alors l'argent que l'on trouve aux galériens est perdu pour eux. M. Gérardeau nous demanda si nous voulions confier au capitaine l'argent que nous avions. Nous lui dîmes que nous ne demandions pas mieux et comme notre argent était dans une bourse commune que je gardais, je la remis sur le champ entre les mains de M. Gérardeau qui compta au capitaine cet argent, lequel consistait en 700 ou 800 livres. Après cela, le capitaine dit à M. Gérardeau, qui ayant parmi nous des malades et des infirmes, il était de toute nécessité que nous fussions pourvus d'un ou de 2 chariots, suivant le besoin que nous pourrions en avoir pendant la route. Il ajouta qu'il ne pouvait faire à ses frais cette dépense qu'après avoir chargé de coups de bâton ceux qui ne pouvaient marcher, pour s'assurer qu'il ne faisait pas les malades exprès pour se faire voiturer. M. Gérardeau comprit d'abord ce que ce discours signifiait, et aussitôt accorda que nous paierions au dit capitaine 100 écus, et cela sur le champ, afin que, lorsque nous nous plaindrions de ne pouvoir marcher, on nous mît sur des chariots sans nous donner de coups ou faire d'autres mauvais traitements. De sorte qu'à proprement parler, les 100 écus qu'il prit de notre bourse commune étaient pour nous racheter des coups de bâton pendant la route. Pour notre sûreté, M. Gérardeau fit signer un reçu au capitaine, avec promesse qu'en nous remettant notre argent et la caisse de nos livres, que nous conditionnâmes qu'il ferait voiturer jusqu'à Marseille sur le marché des 100 écus, il rapporterait quittance du tout avec notre attestation que nous étions contents de lui. Cela fait, et le capitaine ayant reçu ses ordres et ses expéditions pour le départ de la chaîne, sur les 3 heures après-midi, on nous fit sortir de la Tournelle et traverser une partie de la ville de Paris pour aller coucher à Charenton. Une grande quantité de gens de la religion réformée se tenaient dans les rues par où la chaîne passait, et malgré les bourrades que nos brutaux d'archers leur portaient pour les empêcher de nous approcher, ils se jetaient sur nous pour nous embrasser, car nous étions reconnaissables à nos casaques rouges. D'ailleurs, nous 20 et 2 étions tous ensemble à la queue de la chaîne. Ces bonnes gens, parmi lesquels il y en avait beaucoup de distinctions, nous criaient tout haut. « Courage, cher confesseur de la vérité, souffrez constamment pour une si belle cause, pendant que nous ne cesserons de prier Dieu, qu'il vous fasse la grâce de vous soutenir dans vos rudes épreuves. » Et autres discours de ce genre, très consolant pour nous. 4 messieurs, gros marchands de Paris, nous accompagnèrent même jusqu'à Charenton, avec la permission du capitaine, grand ami de l'un d'eux, et firent promettre aux 10 capitaines de leur permettre de nous donner à souper à Charenton et qu'ils nous détacheraient de la grande chaîne pour pouvoir être en particulier avec ces messieurs dans une chambre de l'hôtellerie où la chaîne logerait. Nous arrivâmes à Charenton sur les 6 heures du soir au clair de la lune. Il gelait, comme on dit, à pierre fendre. La peine que nous avions à marcher et l'excessive pesanteur de nos chaînes, qui étaient de 150 livres pesants pour chacun, suivant les dires du capitaine même, nous avaient réchauffés du grand froid que nous avions enduré dans la cour de la Tournelle. Mais échauffés à tel point qu'arrivant à Charenton, nous étions en sueur comme si on nous avait plongé dans l'eau. Étant donc arrivés à Charenton, on nous logea dans l'écurie d'une hôtellerie. Mais quel logement, hélas! Et quel repos nous préparait-on pour nous refaire de cette grande fatigue? La chaîne était clouée au râtelier, de manière que nous ne pouvions nous coucher ni même nous asseoir que difficilement sur le fumier et les immondices des chevaux, car, comme le capitaine conduit la chaîne à ses dépôts jusqu'à Marseille, moyennant 20 écus par tête de ce qu'il livre à Marseille, il épargne jusqu'à la paille, et nous n'en avons pas eu pendant toute la route. On nous laissa donc ainsi reposer, si tant est que ce repos ne soit pire que la fatigue que nous avions eue, jusque sur les 9 heures du soir pour nous préparer une autre scène la plus cruelle qu'on puisse imaginer, comme je vais la dépeindre. Cependant, nos 4 messieurs de Paris qui nous avaient suivis jusqu'à Charenton logèrent dans la même hôtellerie où était la chaîne, y arrêtèrent la plus grande chambre et ordonnèrent le souper pour 30 personnes pour nous régaler, comptant que les capitaines leur tiendraient parole. Mais quel régal, mon Dieu! Autre qu'ils ne s'attendaient, n'eûmes-nous pas, et aussi par la vue d'un spectacle qui me fait frémir toutes les fois que je me le rappelle, le voici.